Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver en compagnie de Zrinka Stahulczak, qui prononcera donc aujourd'hui la deuxième des quatre conférences qu'elle nous fait le plaisir et l'honneur de nous adresser en ce mois de juin, sur les fixeurs au Moyen-Âge. Donc, ce ne sont pas des passeurs, ce ne sont pas des traducteurs, ce ne sont pas des interprètes, c'est à peine des arrangeurs, mais alors qui sont-ils? Que font-ils? Zrinka a donc décidé de nous les faire exister par cet anachronisme contrôlé dont elle a montré toute l'audace et toute la rigueur la semaine dernière, en essayant de saisir dans l'intelligibilité du contemporain ce qui pourrait les faire exister. On les a vus passer de manière furtive dans les textes, dans les images surtout. Elle les a définis comme un dispositif, et ce dispositif devait dire quelque chose, et c'est pour cela effectivement que nous sommes entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, devait dire quelque chose de, je la cite de mémoire, de cette fiction politique que la modernité raconte lorsqu'elle prétend que nous sommes sans médiateurs, que nous n'avons pas besoin pour accéder aux choses, aux phénomènes, au monde, de ces intermédiaires arrangeants que sont les fixeurs. Donc Zrinka, tu nous avais laissé en plan, hein, je crois qu'on peut le dire, avec un art consommé du suspense. C'était pour qu'on se retrouve aujourd'hui. Nous y sommes, c'est à toi.
Merci, merci Patrick, merci à toutes et à tous de revenir ou de venir pour la première fois. On va en effet rester entre le passé et le contemporain, peut-être entre les deux, ce n'est pas forcément le mot, mais on va faire des passages arrangés entre les deux aujourd'hui et comme pour le reste de ce séminaire. Alors la dernière fois, le 1er juin, nous avons établi plusieurs principes fondamentaux des fixeurs. Le premier point que j'avais soulevé, c'est que les fixeurs agissent dans des situations de conflit, d'hostilité, quoique pas forcément de guerre. Hein, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une tension, qu'il y a un potentiel de violence. Et ce sont toujours donc des situations d'extrémité, de survie, mais j'avais insisté aussi sur l'idée que ce ne sont pas des situations exceptionnelles. Si elles paraissent exceptionnelles, c'est surtout parce que je pense qu'il est important dans ces situations, c'est de rendre visible, elles nous permettent de voir ce qui est toujours présent dans notre rapport au monde, et c'est-à-dire l'intermédiaire qui constitue notre rapport au monde. Et ce qui les rend visibles aussi, je pense assez intéressant pour, quand on en parle en français, c'est cette rugosité du mot « fixeur » qui est finalement mal adapté au français, parce que la signification, on est tout le contraire du verbe « fixer » en français. Hein, « to fix » en anglais, c'est « réparer », c'est « raccorder », donc peut-être « arranger ». Alors, c'est pour ça que j'ai préféré, comme une possible traduction en français, le mot « d'arrangeur », plutôt que « facilitateur » ou « auxiliaire ». On m'a même suggéré, dans la discussion après, « accompagnateur ». Alors, donc, situation de conflit, premier point. Deuxième point, ces situations exigent une intervention communicative qui est souvent rudimentaire entre deux langues mutuellement inintelligibles. Troisième point, faire ou se faire fixeur, non pas être fixeur, hein, mais se faire fixeur, n'est pas une profession, mais une position. Et j'avais finalement ajouté un quatrième paramètre de genre, puisqu'au Moyen-Âge, on a principalement affaire aux hommes, que j'appelle les hommes à tout faire. Certes, on a pu voir que ces hommes à tout faire sont multifonctionnels, c'est bien l'idée de tout faire, hein, donc interprète, informateur, guide, fournisseur, dont le contemporain chauffeur, dont au Moyen-Âge chamelier ou muletier. Mais j'insiste encore sur cette idée de tout faire, hein, c'est bien cette idée-là qui soulève la problématique à la fois de stratégie et d'éthique, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et les deux, cette problématique de l'éthique, évidemment, elle est importante pour aujourd'hui comme pour le passé. Alors nous avons aussi vu que la philosophie ou la métaphysique de la traduction au XXe siècle, surtout depuis Walter Benjamin, pense le rapport entre les langues, pense l'objet, la traduction, mais le pense en occultant l'homme et en écartant le corps, c'est-à-dire en écartant l'intermédiaire, et en écartant l'idée de la communication, c'est-à-dire du réseau et du processus qui amène la traduction. Elle ne se préoccupe pas d'action ou d'effet d'action, et donc nous avons posé la question de pourquoi concevoir la traduction comme une textualité ou comme une transmission de savoir, comme une transmission du sens, des objets de connaissance, plutôt qu'une impulsion à l'action. Et je vous ai offert cet exemple pour la communication comme un performatif du fixeur, comme le côté performatif de la traduction qui fait agir. Et c'était Christophe Colomb qui est poussé à son voyage vers l'Ouest par Marco Polo, par le livre même. Au cours de cette réflexion, nous avons défini le fixeur donc pas comme exceptionnel, pas comme banal, mais comme un dispositif, dans les termes de Michel Foucault. Il est un corps, mais il n'est pas une biographie. Et ce corps, c'est à travers lui que s'agencent les discours de biologie, vie, mort, survie, de communication, est-ce donner ou restituer un sens, ou est-ce que c'est faire ou passer à l'action. Discours d'économie, le marché, le don, la dette, ça nous occupera vraiment la prochaine fois. D'éthique, le sujet d'aujourd'hui, fidélité, code, même expérience. Je ne sais pas exactement où mettre l'expérience dans ces discours, mais peut-être c'est son propre discours, on verra. De politique, les discours de politique, l'État et l'individu, les fins et les moyens. Et donc tout cet ensemble détermine donc la façon de laquelle nous rentrons en rapport avec le monde. C'est un dispositif qui détermine notre relationnalité au monde. Alors, en rétablissant la communication et l'expérience, le vécu, en pensant le fixeur comme un dispositif, j'ai voulu éloigner le fixeur de l'interprète, du traducteur, de celui qui serait réduit à la langue, c'est-à-dire à la fidélité au sens, au texte, à l'original. Et nous nous sommes arrêtés sur Marco Polo, le fixeur par excellence, que nous allons maintenant retrouver. C'est un fil, en effet, conducteur. Alors, vous vous souvenez, Marco Polo dicte son histoire à un écrivain de roman, hein, Rustichello de Pise, c'est en 1298, ça se passe dans une prison de Gênes, et alors que la voix de Marco, elle est écrite à la troisième personne, dans le prologue, c'est Rustichello qui signe son texte, qu'il retrait, vous vous souvenez, retraire, c'est traduire. Alors, si Rustichello se nomme en tant que traducteur, il est aussi vrai que Marco Polo n'identifie aucun fixeur, ni guide, ni interprète qui l'aurait servi dans son périple de 17 ans en tant qu'officier de la cour du grand khan mongol. C'est Polo lui-même qui serait son propre fixeur, c'est lui qui parlait toutes les langues véhiculaires. Nous avons donc supposé que Rustichello, le scribe, l'interprète de Polo, façonne la position de Polo comme celle d'un passeur exceptionnel, parce qu'il n'y aurait pas de médiation de la traduction des langues, il n'y aurait pas de problème de communication, on serait dans le vif et dans l'immédiat. Et que donc le seul endroit où on pourrait interroger le lieu de passage, les mises en place, les détournements du sens, serait auprès de son interprète, Rustichello. Rustichello donc détournerait notre regard de tout ce dispositif qu'est Marco Polo et qui mobilise tout un réseau quasi invisible, fluide, jamais statique. Le dispositif rejoint l'autre concept que j'avais utilisé, celui d'acteur réseau, en termes de Bruno Latour. Rustichello l'interprète, efface les multiples agencements de la relationnalité de l'acteur réseau pour offrir à la place une division, c'est le divisement du monde, hein, c'est de diviser, c'est décrire, c'est classifier. Donc, il offre une classification de diversité du monde, classé, catégorisé. Le monde de Polo est une offrande, sans médiation, au désir de tous. Vous vous souvenez, la première phrase de ce texte, c'est « il invite à partir des empereurs rois jusqu'aux bourgeois » tous les gens qui veulent savoir. C'est une marchandise offerte au désir du marché. Il y a un chapitre qui éclaircit le rapport de Polo à la communication sans médiation, à ce désir de se donner à voir en autofixeur sans médiation. Et voici l'image qui va nous accompagner, c'est la seule d'aujourd'hui, mais je la trouve très à propos. Il s'agit de l'argent. Polo explique que le grand Khan échange pierres et perles et or et argent pour monnaie de charte, monnaie en papier faite d'écorce d'arbre. Il s'agit bel et bien de change, mais aussi d'unique monnaie universelle qui rassemble tout l'Empire sous un signe de conversion des objets en papier. Je cite, « Le Khan fait tous les paiements avec cette monnaie et le fait distribuer par toutes les provinces, règnes et terres sur lesquelles il règne. Nul n'ose la refuser sous peine de perdre la vie. Avec cette monnaie, on peut tout acheter. C'est la monnaie en papier qui fait la conversion, qui fait la traduction de toutes les différences en une valeur universelle sous le sceau du grand Khan. La monnaie en papier avait de la valeur puisqu'elle représentait l'or, l'argent, les pierres précieuses, les perles, les draps d'or et de soie. Eux étaient déposés dans un trésor, la banque du grand Khan, qui sécurisait la valeur du signe monétaire qui seul circulait et pouvait tout acheter. Je cite, « Le grand seigneur doit avoir et a le trésor plus grand que quiconque de ce monde. Et je vous dirai plus. » Tous les seigneurs du monde n'ont pas de richesse aussi grande que le grand seigneur à lui tout seul. Ce n'est pas donc une langue universelle de l'Empire mongol qui fait l'union de l'Empire, mais le papier-monnaie qui en est la langue universelle. Dans ce contexte, les langues de l'Empire mongol deviennent tout simplement une autre marchandise échangeable, monétisable, à une valeur déterminable. Tout est à marchander dans ce répertoire mondial que Polo divise et qu'il offre à ses lecteurs européens. Voilà donc le monde idéal de Polo où on est son propre fixeur. Un monde sans pli, sans obstacle, où tout est convertible, échangeable, passable, dès lors que l'on a un fixeur qui sait diviser et convertir entre les valeurs égales et qu'on est idéalement son propre fixeur. Un monde de marchandises offertes comme autant de merveilles. Je cite, « Pour cette raison, il se dit, il, Marco, c'est Rustichello qui parle, il se dit que trop serait mal s'il ne faisait pas mettre par écrit toutes les grandes merveilles qu'il vit et qu'il oït pour de vrai, pour que les autres gens qui ne l'ont ni vu ni su le sachent par ce livre. » L'argent en papier serait-il donc aussi des récits convertis en parchemin? Quelle est donc la fiction politique ou en tout cas la posture de Polo, celui qui se pose, vous vous souvenez, comme l'interlocuteur privilégié du Khan, du pape et des rois chrétiens, de tous les plus puissants. Ce passage entre l'Orient et l'Occident peut-il être opéré uniquement comme une merveille? Il faut donc comprendre les rapports de pouvoir liés à la langue et à la conversion qui s'opèrent dans le dispositif du fixeur. Si la langue et le fixeur font partie d'un marché de la traduction, de la communication entre les mondes à l'échelle globale, y a-t-il place pour une éthique dans le réseau? Y a-t-il place pour une éthique de réseau? Les réseaux sont des collectifs par ce qui nous fait agir et par ce que on agit. Dans un réseau, ce n'est pas l'homme qui agit sur le monde, ce n'est pas l'homme maître du monde, ce n'est pas une question de libre arbitre de l'individu, car, et je reprends ici la brillante intuition de l'artiste Comparo, tout individu est un concours de circonstances, donc un réseau de circonstances. Il faut comprendre cette circonstancialité vécue car elle n'est pas voulue. La différence se situe non pas dans la volonté ou dans l'intention d'un individu d'imposer une maîtrise à la situation, mais dans l'exigence de la malléabilité imposée à l'individu fait de circonstances. Il me semble que ce réseau de circonstances n'est visible nulle part mieux que dans des situations de vie et de mort. Et la question qui se pose est celle-ci. Quelles sont les limites de la malléabilité, de la fluidité, c'est-à-dire quelle part de nos actions peut-on attribuer à ce concours de circonstances, et donc quelles sont les limites de la responsabilité? Si tout individu est un concours de circonstances, un réseau de circonstances, c'est à la fois ce qui le singularise, il est unique dans ses circonstances, mais c'est aussi ce qui le livre au hasard et fait qu'il est comme tout le monde, puisqu'il n'est qu'un concours et non pas le sujet de sa volonté, et il n'est pas l'auteur de lui-même. La volonté dont l'histoire de la pensée occidentale articule la subjectivité, comme l'a montré Alain de Libera dans son cours au Collège de France sur l'invention du sujet moderne, le cours de 2013-2014, et la réflexion qu'il a poursuivie dans son cours « La volonté et l'action » en 2014-2015. Dans ce dernier, Alain de Libera se demande à nouveau si celui qui agit est un sujet. Le fait d'agir constitue-t-il la subjectivité ? C'est une question de pouvoir agir, question de puissance. Doit-on obligatoirement passer, non pas par la question de la puissance, elle est liée à la subjectivité, a agi celui qui a pu, parce qu'il a pu ou pas agir, mais doit-on donc obligatoirement passer par la question de la volonté, a agi celui qui a voulu ou pas agir. Pourquoi pouvoir agir devient vouloir agir? La subjectivité ne peut-elle se constituer qu'en passant par le vouloir et non par le pouvoir agir? La volonté, qui est le postulat de la subjectivité moderne, a pour pendant une autre subjectivation. Si est sujet celui qui veut agir, alors on est confronté non pas simplement à un sujet d'action et de volonté, mais, et je cite Libera, à un sujet d'imputation, un sujet capable de s'attribuer à lui-même ses actes, le sujet dit responsable, mais aussi un sujet capable d'attribuer à d'autres lui-même la capacité d'auto-attribution, imputation de leurs propres actes. Donc, je sais que je suis responsable et je sais que l'autre sait qu'il peut être responsable. Ces différences entre puissance, notion antique grecque, et volonté, notion médiévale, comme le montre de Libera, médiévale et moderne, ces différences entre le pouvoir agir et vouloir agir, s'articule dans le passage par le Moyen-Âge entre l'Antiquité tardive de saint Augustin et la scolastique de saint Thomas d'Aquin, comme l'a démontré Giorgio Agamben dans un livre publié il y a à peine quelques mois, « Carman, court traité sur l'action, la faute et le geste ». Toute la question de la morale chrétienne et de l'éthique occidentale se loge dans cette question de volonté et d'imputabilité à un sujet responsable de ses actes. Mais dans un réseau, tel que le conçoit Bruno Latour, tel qu'est notre fixeur. Il n'y a pas d'acteurs simples, d'acteurs de volonté, mais seulement des acteurs réseau. Acteur qui est réseau, réseau qui est acteur, cette idée provient du constat que, selon Latour, un acteur n'agit pas, on le fait agir. Il n'y a pas la place alors pour la volonté ou l'intentionnalité humaine, puisque nous ne sommes jamais seuls à agir. Il s'agit donc de savoir comment cette notion de réseau, de concours de circonstances, se confronte à la question éthique de responsabilité qui peut-être n'a pas lieu d'être ou ne peut pas avoir lieu dans un concours de circonstances. Il s'agit de savoir si le fixeur est un sujet, s'il est un sujet par la puissance d'agir ou par sa volonté d'agir. Et si le concours de circonstances l'irresponsabilise, il peut agir, ou lui laisse une part de responsabilité, vouloir agir. Donc, est-il imputable ? Le fixeur est-il un échangeur, un marchand qui fait passer comme Marco Polo les valeurs égales par la monnaie universelle, les convertissant les unes dans les autres ? Ces valeurs qu'il fait passer les unes pour les autres sont-elles fidèles à la trésorerie, à la banque, qui assure que le signe monétaire ait une valeur ? J'essaierai, et j'espère, nous essaierons d'y répondre. Alors, on essaiera d'esquisser une réponse grâce au traité de croisade, qui constitue un corpus de sources, pour poser les bases de cette analyse. Les traités proposent des stratégies et instrumentalisent le dispositif de fixeur pour garantir la permanence de la conquête et de l'occupation de la Syrie ou de la Terre Sainte, comme vous le savez. Syrie est en fait le nom utilisé au Moyen-Âge pour le Proche-Orient. Il est parfois interchangeable avec la Terre Sainte, même si la Terre Sainte, évidemment, a un référent différent et souvent désigne un territoire plus restreint. Pour arriver à cette confrontation entre le réseau et le sujet, entre l'action et l'éthique, il nous faut commencer par l'analyse du réseau que les traités proposent, surtout à partir du dernier quart du XIIIe siècle. Pourquoi le dernier quart du XIIIe siècle ? Parce qu'il y a eu un énorme changement dans l'écriture des traités, après 1270 à peu près, et autour de la chute de la ville d'Acre en 1291. Acre, qui était le dernier bastion chrétien en Syrie, au Proche-Orient, et après cette chute, les chrétiens se sont repliés à Rhodes et à Chypre. Ce qu'on discerne, en fait, à partir de ce moment-là, c'est une forme de concrétisation de la réflexion sur la conquête et la stratégie. Notamment, les traités qui précédaient, qui ont accompagné les quatre premières croisades entre 1096 et 1204, étaient caractérisés par une rhétorique plutôt spirituelle et une justification théologique et juridique. Là, je pense bien sûr à la guerre juste, bellum justum, la guerre qui justifie ses moyens. Les traités écrits après 1270 sont en revanche des manuels d'occupation. Ce sont des pratiques de savoir. Ils se partagent en plusieurs catégories. Par exemple, on parle des ports, de nombre et de types de soldats, nombre et types d'armes, nombre et types de navires, types de commandement, financement, route de ravitaillement. La stratégie inclut petit à petit les questions de climat, de topographie, d'analyse des populations locales, leur composition religieuse, leur sentiment envers les croisés. Est-ce qu'on peut compter sur leur soutien ou pas ? Est-ce qu'ils vont se soulever, par exemple, les chrétiens orientaux qui sont sous le joug des musulmans ? Vont-ils soutenir l'arrivée des croisés ? La plus importante question était la route de la reconquête à emprunter, par mer ou par terre ? Et bien sûr, ces traités, je ne veux pas vous donner l'idée que ces traités sont uniformes, hein, c'est le Moyen-Âge, pas d'uniformité dans le format. Et les catégories donc, ne sont pas stables, mais plutôt se mélangent au gré de l'expérience de l'auteur et des conditions politiques changeantes. C'est donc l'expérience qui les informe, le vécu, non pas le théorique, c'est pour ça que je dis que ce sont des pratiques de savoir. Un nombre de traités de croisade propose les fixeurs comme intégraux à la logistique militaire ou viatique, alors que d'autres passent à l'explication, à l'élucidation de leur rôle d'agent. Mais c'est loin d'être la règle. La question donc, bien sûr, c'est pourquoi et quand est-ce qu'ils apparaissent dans ces traités ? C'est vraiment pas à chaque fois. Alors il est évident que la langue oriente le rapport au monde. Et si on comprend la différence linguistique dans sa vision du monde, le monde va se configurer différemment. Et c'est ce qui ressort d'une manière très prononcée avec les traités. Donc, les auteurs qui prônent le passage par la terre, via per terram, s'intéressent à l'apprentissage des langues et aux fixeurs, mais ceux qui préconisent le passage par la mer, via per aquam, ne manifestent quasiment aucun intérêt pour la communication. Bien sûr, ça peut vous faire penser, n'est-ce pas, aux attaques par drone ou par avion où il n'y a pas d'armée de sol. Bon, donc il n'y a pas de problème, juste on frappe. Et c'est une attaque surprise sur la ville d'Alexandrie, disent les auteurs de traité, qui provoquerait, donc par la voie par la mer, qui provoquerait un effondrement immédiat des défenses égyptiennes dont la population est considérée comme pacifiée et faible en métier d'armes. Et d'ailleurs, il est intéressant qu'on a un exemple historique de cette stratégie, c'est la conquête d'Alexandrie en 1365 par Pierre Ier, roi de Chypre. Bien sûr, elle est restée très éphémère, mais c'est exactement comme ça que ça a marché. Une attaque éclair par la voie de mer. En revanche, la présence d'une armée de terre soulève un grand nombre de problèmes, notamment ceux de communication. Ainsi, les traités qui construisent le monde à partir d'un réseau terrien et optent pour le passage par les terres, constatent pour la plupart que l'apprentissage des langues étrangères est indispensable. Frère Mineur, Fidence de Padoue, qui termine son livre de la récupération de Terre Sainte en 1291, résume toute la problématique liée à la communication linguistique et culturelle qu'impose le passage par voie de terre. Je le cite. « Les pèlerins du Christ, c'est-à-dire les croisés, doivent avoir avec eux des guides, doctores, qu'on appelle pedotas, pilotes, qui les mènent par les voies bonnes et directes et les approvisionnent de tout le nécessaire sur le chemin. Ils devraient également mener avec eux des interprètes qui sauraient plusieurs langues parce qu'ils seront obligés de traverser des terres diverses où on parle des vernaculaires et des langues lettrées différentes. » sans ces ductores, sans ces interpretes, les fixeurs, le passage par la voie de terre serait irréalisable. Et là, je voudrais souligner un point vraiment très important. Même si on peut considérer que la récupération de la Terre Sainte est une conquête, voire peut-être une colonisation, le but de ces traités n'est jamais d'imposer la langue du conquérant, comme cela a été le cas avec la colonisation moderne, n'est-ce pas, par les États-nations modernes. Au contraire, le but est d'apprendre et de maîtriser les langues des territoires à conquérir. L'occupant n'impose pas sa langue, mais apprend celle de l'occupé. L'apprentissage des langues étrangères pour le conquérant, pour les croisés, est le moyen d'exercer le contrôle sur le territoire conquis, ainsi que de s'en servir pour convertir et par conséquent se rallier la population dont le dogme est la vraie foi. Alors de quelle langue s'agit-il ? Là, je vais vous offrir deux auteurs qui en parlent le plus. C'est Pierre Dubois et Raymond Lulle. Vous connaissez évidemment le nom de Raymond Lulle, théologien et missionnaire dominicain et puis franciscain, qui est un des auteurs les plus prolifiques du Moyen-Âge et aurait écrit au bas mot 250 ouvrages encore existants, hein, dont un certain nombre entre 1292 et 1311 qui sont au sujet du recouvrement, la récupération de la Terre Sainte. Alors, en revanche, Pierre Dubois est un auteur peu connu. Il était légiste et avocat, et il est auteur du traité intitulé « De recuperatione terre sancte », donc de la récupération de la Terre Sainte, qu'il a écrit entre juin 1305 et juillet 1307. Une grande partie du traité de Dubois est dédiée à la discussion de la fondation des écoles de langue, au cursus et les missions que les étudiants pourront accomplir à la fin de leur formation. Les étudiants recevraient une formation en arts libéraux, donc le trivium, hein, grammaire, logique, rhétorique, et le quadrivium, astronomie, géométrie, arithmétique et musique, et puis en médecine, en droit et en théologie. Ce qui est fascinant chez Dubois, c'est qu'il propose l'éducation pour les garçons et les filles, qui apprendront trois langues, le latin, puis soit le grec ou l'arabe, et alors une autre langue lettrée, c'est-à-dire une vernaculaire qui est écrite. Par exemple, le chaldéen, c'est-à-dire le persan. Dubois reconnaît que l'apprentissage des langues demande un certain talent et réserve à ceux qui seraient moins doués pour les études la formation en tant qu'interprète des langues vernaculaires qui ont le statut de langue écrite. Donc ça, c'est le français, en fait, qu'il propose. Il fait donc la différence entre les langues véhiculaires et les langues vernaculaires. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Raymond Lulle ? Lui, il donne peu de détails sur le cursus, il se contente le plus souvent de reprendre tout simplement la liste des langues d'apprentissage. Pour lui, c'est l'arabe, le persan, le couman, le guse et d'autres langues schismatiques comme le grec, l'hébreu et le tartare. Les étudiants doivent pouvoir parler, lire et comprendre, et apprendront, alors ça c'est le seul ajout qui fait, la théologie et la philosophie. Il n'y a pas de trivium et quadrivium. Contrairement aux étudiants de Dubois, ils ne seront que des hommes. Alors ces idées ne sont pas neuves, l'ordre des Dominicains les promeut dès le XIIIe siècle, en Espagne bien sûr, c'est une région frontalière, contestée, la Reconquista de la péninsule est loin d'être terminée, la première circulaire des Dominicains remonte à 1236 sur les langues, les franciscains les rejoignent très vite dans ce projet, et c'est vers 1270 par exemple qu'on voit le franciscain Roger Bacon prôner l'étude des langues véhiculaires pour la diplomatie, le commerce et la conversion des peuples non chrétiens. Donc les dominicains sont l'ordre des prêcheurs, comme vous le savez, les franciscains deviendront les gardiens des lieux saints, donc ils ont tout intérêt pour les langues. Passons donc maintenant au discours principal du dispositif de fixeur, celui que je vous propose pour aujourd'hui, la fidélité. Le trait qui réunit presque tous les traités et qui est aussi leur aspect peut-être le plus fascinant, c'est l'équivalence que les traités établissent entre la logistique matérielle d'une conquête et les qualités intellectuelles et morales, voire psychologiques, chez le chef de la croisade et l'armée croisée. Ces qualités psychologiques qui sont absolument requises pour que la conquête réussisse. Donc presque tous les traités, alors avec plus ou moins d'attention, traitent de la question du chef de croisade, ce capitaneus, et ses traits psychologiques et moraux jugés indispensables. Fidence de Padoue s'avère ici, encore une fois, très éloquent sur ses qualités. Il doit être fort, droit, sage, juste, intègre, généreux, diligent, habile, stable. Tous les auteurs sont d'accord que la croisade doit être menée par un seul chef, par qui tous les chrétiens sont dirigés, unis et redressés, et que c'est cette unicité de direction qui inspire et nourrit la vertu la plus désirable dans toute l'armée, un seul commandant, je cite Fidence, un seul commandant à qui tous les chrétiens obéissent fidèlement et avec dévouement. Fideliter et devote. Donc il sera obéi avec fidélité et dévouement. C'est dans le personnage du chef, dans l'action qu'il commande, que se cristallise le facteur crucial d'instabilité, la fidélité. Cet adverbe, fideliter, qualifie la psychologie de tous ceux qui passeront outre-mer. Là, je cite plusieurs traités très différents. Ils seront les hommes fidèles, des capitaines de navires fidèles en tout. Le chef de la croisade sera fidèle, honnête, strict et gentil de cœur. Les chevaliers de l'ordre militaire seront une armée de Dieu plus fidèle que ceux qui n'y appartiennent pas. Ça, c'est les plus fidèles que les fidèles. Les trésoriers de l'armée sera le plus savant, fidèle et subtil. Les espions, même les espions, seront fidèles et discrets et s'enquérant de la fidélité des subalternes comme des commandants. Les messagers seront fidèles et certifiés et transmettront fidèlement à tout le clergé. Enfin, vous voyez l'idée. La composition de ces traités ne propose pas la logistique qui serait évincée au profit d'une allégorie de vertu. Ce n'est pas une allégorie du tout. La fidélité n'est pas un idéal, mais elle est autant une nécessité que l'eau pour les chevaux ou les fournitures pour l'armée. La fidélité est aussi matérielle que la logistique propre, et les traités donnent l'impression d'aller encore plus loin dans cette appréciation. C'est comme si les qualités psychologiques et intellectuelles, et principalement la fidélité, étaient capables de maîtriser la volatilité des conditions matérielles de la conquête, le climat, la topographie, l'ennemi. La fidélité du fixeur, et nous le verrons dans un instant, y joue également un rôle prépondérant. C'est ainsi sur les hommes que les auteurs des traités vont exercer une pression comme moyen de stabiliser les concours de circonstances par l'action de la volonté, par l'action du sujet. La pression s'exercera sur le point qui paraît être le plus sensible, cette question de la fidélité de l'homme, la question de la fidélité du sujet de volonté et d'action. Au fil des pages, donc, l'éthique prend la première place. Mais quelle serait cette éthique des fixeurs ? Il est évident qu'on ne parle plus de la réversibilité, de la fidélité, de la trahison. C'est ce dont je parlais la dernière fois. Le traducteur qui trahit ou ne reste pas fidèle à l'original ou à la langue d'accueil. La visée d'éthique s'oppose à cette injonction ethnocentrique de ne pas trahir soit la culture ou le texte de l'original, soit la culture de la langue traduite. Au contraire, les traités la définissent clairement comme fidélité entre les personnes, entre le fixeur et son client. Je reviens donc sur cette idée que j'ai partagée avec vous la dernière fois, l'idée que ce n'est pas la textualité, mais la relationnalité qui est au cœur de l'éthique de la traduction. Alors, de quelle éthique pouvons-nous parler ? Les traités l'exigent. Mais quelle est la fidélité possible quand on se retrouve dans un réseau de circonstances dès qu'on parle de la subjectivité ? La subjectivité et la fidélité sont-elles compatibles avec l'homme pris dans un concours de circonstances ou est-ce tout simplement une aporie que je pose ? Vous vous souvenez de la définition de Félix Fabry selon laquelle les dragomanes, les fixeurs, qui sont les protecteurs, les guides, les gardiens des pèlerins. Et là, on pourrait se demander, mais de quoi exactement protègent-ils les pèlerins ? De quelle protection parle Fabry alors que les chrétiens les accusent régulièrement d'abus de leur pouvoir, de les mettre en danger ? Je cite Anselme Adornon, en fait son fils qui écrit, qui a écrit l'itinéraire de la Terre Sainte après son voyage en 1470-71. Les Francs, c'est-à-dire les chrétiens, ne connaissent chez eux aucun moment de sécurité et de tranquillité, mais sont toujours en proie à des craintes très vives et à l'appréhension d'être tués. Et Anselme d'affirmer que, quant aux Francs, les Arabes les persécutent de façon inhumaine et tuent très souvent ceux qui n'ont rien à leur donner. Je souligne pour le moment le mot « donner », rien à donner, on verra ça la prochaine fois. Alors, le récit d'Adorno n'a rien d'exceptionnel. Dès le XIVe siècle, les récits de voyages des pèlerins en Terre Sainte sont remplis de descriptions des dangers dont la faute revient aux fixeurs. L'Itinerarium ad Montem Sinai, 1330, du franciscain Antonio de Reboldi, est un récit de dangers toujours grandissants, maius periculum. Nous avons subi les labeurs du chemin extérieurement, c'est-à-dire physiquement, mais intérieurement, nous endurions la peur de mourir par la main de ces Arabes qui nous conduisaient. Anselme Adorno n'hésite pas à nous dire que les fixeurs pêchent moins par incompétence que par abus de leur pouvoir linguistique. Nous étions très surpris de l'attitude de notre truchement. N'avait-il pas compris ce qui se passait, ou avait-il compris et il n'avait pas pu ou voulu, voulu nous le dire en italien. Et quand ce n'est pas une traduction mauvaise ou malveillante, alors c'est la disparition du fixeur qui menace leur survie. Dans le récit que le franciscain Niccolo da Poggibonsi écrit après son voyage de 1346 à 1350, on apprend que la communication non verbale ne peut pas surmonter l'absence du fixeur. Je cite, « Et ces Arabes avec qui nous sommes restés, sous-entendus les chameliers, ne comprenaient strictement rien à notre langue, ni nous à la leur, ni par les signes, ni par les actes. Ainsi, quand on demandait quelque chose, ils en faisaient tout le contraire. » On pourrait dire que pour Poggibonsi, la soudaine absence du fixeur révèle l'illusion de la rencontre. Il n'y aurait pas de rencontre sans médiateur. Pour un groupe de Florentins dont on possède trois récits, Leonardo Frescobaldi, Giorgio Gucci, Simone Sigoli, qui voyagent en 1384, la disparition de leur fixeur signifiera qu'il les a trahis et organisé le pillage de leur équipement et provisions et le vol de leur argent, alors qu'ils sont égarés au milieu du désert. Je cite Gucci. Nous percevions clairement que ces vols procédaient de notre truchement qui nous guidait et de ceux qui avaient les chameaux que nous menions avec nous. Alors que voit-on ? Le fixeur n'est pas moins suspect que la traduction infidèle. Même, on doit le dire, on va le constater, il en joue. Il s'avère être un personnage ambigu, un gardien qui met en danger la vie des pèlerins, même peut-être qui peut les mettre en danger parce qu'il est leur gardien. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est celui qui assure notre sauvegarde, la sauvegarde de notre vie, mais c'est par conséquent celui dont on a peur. À en croire les pèlerins, on devrait en avoir peur légitimement et par précaution. Alors les auteurs des traités en savaient quelque chose apparemment. Ils avaient très bien compris, bien avant les pèlerins qui en feront les frais, le danger de l'infidélité des fixeurs. Paradoxalement, il en avait la conscience non pas par peur de leur vie, mais parce que leur but était beaucoup plus ambitieux. La réflexion que l'apprentissage des langues étrangères sert à la diplomatie, au commerce et à la conversion est globalement partagée. Ils avaient donc la conviction profonde que les fixeurs que l'on embauche, selon les besoins et les circonstances, sont des agents libres dont le simple fait d'être sous contrat ne contrôle pas les actes ou les paroles. Les interprètes des langues étrangères, dit Pierre Dubois, ne suffiront pas, puisqu'il serait dangereux de leur faire confiance, combien même on pourrait en trouver assez ou de confiance pour l'administration de l'Empire. Les étrangers, barbares aux yeux des Français, comme le sont tous ceux qui comprennent la langue des Grecs, seraient aussitôt influencés et soudoyés pour trahir et tromper ceux qu'ils verraient comme des barbares dans ce pays. Donc, les étrangers, les interprètes étrangers ne sont pas fiables parce qu'ils peuvent être soudoyés et influencés. Ils n'ont ni l'intérêt ni la capacité et la simple de bien faire leur travail. Et la simple connaissance des langues est insuffisante pour les fins que les auteurs des traités se proposent. Comme l'explique le dominicain Ricoldo de la Monte Croce, qui a vécu et prêché au Moyen-Orient entre 1288 et 1300, La connaissance des langues suffit peut-être pour y survivre, mais pas pour faire avancer un projet intellectuel et politique, en l'occurrence de conversion. Je le cite. Combien même les interprètes ordinaires, hein, ce n'est pas les interprètes étrangers, mais ordinaires, connaissent suffisamment bien les langues pour acheter et vendre et pour le vivre ensemble au quotidien. Ils ne savent pas comment traduire la foi et les secrets de la foi avec des mots propres et adéquats. Ils ont honte de dire « je ne comprends pas »,« ego non intelligo » ou « je ne sais pas comment dire »,« nescio dicere ». Ainsi, ils pervertissent les mots et disent une chose par autre chose. Il convient donc que les frères apprennent bien la langue, comme il m'a été nécessaire d'apprendre non seulement la langue arabe, mais aussi les dialectes. Donc ce qu'on apprend, c'est qu'au début de sa mission, Ricold était confronté à devoir prêcher en langue arabe par l'intermédiaire d'un truchement. À la même époque, Raymond Lull fait le même constat. Quand les missionnaires débattent avec les infidèles, ils ne peuvent pas faire grand-chose via les interprètes, puisque ceux-là ne comprennent pas les vertus de la foi chrétienne, ni non le vocabulaire suffisant de notre foi. Que faudrait-il de plus que la compétence ? Voilà pourquoi les auteurs des traités insistent sans relâche sur le besoin d'une double éducation. D'abord, l'éducation des hommes qui ne seraient pas des étrangers, mais qui seraient choisis parce que nés en Europe dans la foi chrétienne. Seuls ceux qui appartiennent et sont fidèles au monde chrétien par leur lieu de naissance peuvent commencer l'apprentissage des langues étrangères. Mais cela ne suffit pas d'en faire des fixeurs. Ils font une éducation en arts libéraux, sur laquelle insistait tellement Pierre Dubois, une éducation qui se poursuivrait pendant une vingtaine d'années. C'est rien. Les savoirs ainsi que la capacité d'activer ces connaissances à des fins de conversion distinguent les interprètes étrangers, ceux qu'on embauche, des fixeurs nés en Europe, ceux qu'on formerait dans des écoles de langue en Europe. Ricold de Montecroce nous a dit que les interprètes étrangers ne savent pas « nescio dicere » ou ne comprennent pas « non intelligo ». Mais les fixeurs domestiques savent et comprennent parce qu'ils ont la capacité d'agir, hein, la « agency », qui dépasse largement les connaissances linguistiques. Voici ce qu'on dit Dubois, que les fixeurs domestiques doivent savoir comment répondre raisonnablement aux objections des barbares pour démolir leurs opinions erronées. Ils doivent pouvoir les convaincre par leurs arguments indisputables et attirer à la vérité de la foi chrétienne. Leur connaissance supérieure dans tous les domaines leur permettront, je le cite encore, de triompher sur tous les experts de l'autre pays en disputant, consultant, conférant et de toute autre manière. Ainsi, personne ne saurait résister à la sagesse de l'Église romaine. Raymond Lull l'exprime peut-être le mieux. C'est très court et c'est très pertinent. Ils sont lettrés raisonnablement dans la foi. Alors, que faudrait-il de plus ? Car il faut encore quelque chose de plus. Il faut que ces fixeurs domestiques deviennent experts aussi dans les mœurs des régions à conquérir. Cette fois-ci, c'est le franciscain Roger Bacon qui l'explique dans son Opus Maius. La connaissance des régions est des plus nécessaires pour l'union des fidèles et la conversion des infidèles. Pour cette raison, soit pour la conversion, soit pour d'autres commerces de l'Église, il est impératif de connaître les rites et les conditions de chaque nation. Nature. En parcourant les écrits des franciscains et des dominicains, toutes les conditions sont donc réunies pour nous donner la recette du fixeur idéal. Un homme parlant les langues étrangères, connaissant les mœurs et les coutumes des nations infidèles, en pleine possession des connaissances théologiques et capacités intellectuelles, né en Europe, autonome. Autrement dit, le fixeur domestique ne sera ni un interprète simple, ni le fixeur d'un missionnaire ou d'un croisé. Il sera son propre fixeur, à la manière de Marco Polo. Ce n'est pas un traducteur de langue, mais un interprète de la pensée et de la foi, à la seule fin de la conversion et conquête permanente. Raymond Lull, qui a appris l'arabe pour convertir directement les musulmans par ses écrits et sa prédication, dira ainsi de lui-même qu'il est un expressor et pas interprès. De nouveau, nous pouvons constater qu'il existe un effort d'effacer la médiation entre les langues, d'effacer la différence linguistique, d'effacer l'intermédiaire, et que paradoxalement, ce travail doit se faire par l'intermédiaire même, le fixeur qui est le prêcheur, le missionnaire, donc qui est l'envoyé. Et donc, comme chez Marco Polo, il n'y aurait pas de double intermédiaire. Il y a Polo Rustichello. Mais il reste l'intermédiaire, puisque le fixeur domestique n'est pas le chef. Donc, on efface l'intermédiaire, mais il reste l'intermédiaire. Parce qu'il n'est pas le chef, il n'est que l'instrument de la foi, du pape ou de l'armée croisée. Alors, est-ce qu'il faut quelque chose de plus? Si je vous pose la question, je pense que vous vous doutez de la réponse. C'est bien sûr oui, il faut encore quelque chose. Même s'il est en pleine possession de ses capacités linguistiques et intellectuelles, que toute la formation qu'on lui fait passer tend vers un seul but, de le rendre autonome, le fixeur reste un intermédiaire. Même le fixeur domestique est donc dangereux. Ce danger, d'où vient-il? De cette même capacité d'agir, de sa forme d'existence. Toute la formation que proposent Dubois, Lull et Bacon doit lui donner des outils invincibles, indisputables, pour convertir les infidèles. Mais la connaissance même des coutumes et des cultures étrangères lui apprend à être souple pour réagir dans le réseau de circonstances et le rend donc vulnérable à l'assimilation. Le rendre capable en fait un sujet d'action, un sujet de volonté et pas uniquement un sujet de puissance. Son évolution au milieu d'un réseau de circonstances fait qu'il est agi autant qu'il agit, qu'ainsi, d'un instrument, il devient un acteur, et que par cela même, il n'est plus dans la fidélité. Devenir son propre fixeur n'est pas pouvoir, mais vouloir agir. C'est le passage de pouvoir en vouloir, de puissance en volonté, c'est la capacité d'agir et d'intervenir qui le constitue en sujet, et donc en quelqu'un qui peut être infidèle. Ce qu'il faut de plus alors, c'est de s'assurer de sa fidélité, c'est-à-dire de l'obéissance aveugle des fixeurs. Toute cette éducation linguistique et intellectuelle doit s'accompagner d'endoctrinement et de discipline que le rude cursus impose. L'éducation n'est autre que la création des sujets fidèles, non pas d'agents libres. Nous avons déjà remarqué que le choix des fixeurs est domestique à l'Europe chrétienne, c'est-à-dire il ne se fait pas chez les étrangers, infidèles ou schismatiques. Dubois et Lull exigent de surcroît que les écoles ne se trouvent de préférence à Paris. L'éducation doit être uniforme afin de neutraliser toutes les différences des peuples européens d'obédience romaine et contrer toute assimilation une fois arrivée en Terre Sainte. On peut voir déjà l'idée de la centralisation de l'éducation et de l'envoi des administrateurs depuis la métropole jusqu'aux colonies que pratiquera l'Empire espagnol des Habsbourg, avec ces différences essentielles, intrigantes, que la colonisation médiévale n'impose pas la langue du conquérant, mais impose au conquérant la connaissance et la pratique des langues des peuples conquis. Bon, revenons à l'éthique. La seule éthique pour les auteurs de traités est celle qui se situe dans l'obéissance et qui suit donc en partie la transparence à laquelle nous fait croire Marco Polo. Comment expliquer l'intention des traités de transformer le fixeur en moyen pur, sans aucune subjectivité et volonté, d'une obéissance aveugle, alors qu'il doit être pleinement en possession de ses moyens afin de convertir? Comment ne pas voir dans le fixeur des traités de croisade autre chose qu'un moyen pur? Comment ne pas reconnaître que ce moyen pur correspond à la performativité de la traduction invisible qui propulserait à l'action telle la conversion? Car il y a encore plus. Le fixeur n'est plus un instrument de la conquête, mais un dispositif qui fait fonctionner un nouveau régime après la conquête, qui facilite le gouvernement d'un territoire. Il est un moyen vers la domination globale. Je cite Dubois. Si la secte catholique devait stimuler les études dans les lieux adaptés, l'effet serait que cette union politique devrait, avec temps, dominer le monde. Le fixeur est la rampe de lancement pour la création de l'Empire d'Outre-mer, l'extension de l'Empire universel chrétien. La soumission et la domination permanente ne sont pas praticables par les interprètes, mais uniquement si les chrétiens deviennent les fixeurs eux-mêmes. Dubois voit ainsi encore plus grand et imagine une nouvelle société d'outre-mer qui sera faite par les habitants venant des régions diverses, donc en fait des immigrants, mais qu'on contraindra à abandonner les coutumes et modes de vie particuliers qu'ils ont chez eux, par une nouvelle loi uniforme. Donc d'une part, l'éducation produira des sujets européens chrétiens tellement endoctrinés qu'ils deviendraient indifférents à toute tentative et toute tentation d'assimilation et d'acculturation. Et d'autre part, tous les autres immigrants seront contraints par la nouvelle loi d'outre-mer d'adopter le mode de vie et l'épistémologie uniforme. Peut-être n'est-il pas étonnant que la formation des fixeurs en sujets obéissants, endoctrinés et acquis à la cause chrétienne, catholique, s'articule dans un contexte religieux de conversion. On peut voir avec Alain de Libera, en suivant les propos dans son cours de 2014-2015, que le contexte religieux de conversion présente, dès le Moyen-Âge, la possibilité de se constituer en sujet, en l'occurrence en sujet religieux, sans médiation, sans intermédiaire. Il s'agit d'un double rejet de la hiérarchie, celle métaphysique, celle qui partirait de homme, ange, fils de Dieu, Dieu, comme la hiérarchie politique, celle qui passe par prêtre, église, Dieu. D'une part, le rejet de la subordination comme création de subjectivité est ici aligné avec la suppression de la médiation que représente un interprète. D'autre part, le rejet de la subordination est en contradiction avec le sujet qu'est le fixeur, mais qu'on réduit en tant que sujet à l'obéissance aveugle pour qu'il n'y ait justement pas de médiation. Donc d'une part, on refuse la médiation, et d'autre part, il y a tout de même un intermédiaire, l'autofixeur, mais à qui il faut enlever la subjectivité. La logique médiévale, dit Libera à propos du théologien Maître Eckhart, soutient que, je le cite, « l'humilité véritable consiste à rejeter tout intermédiaire, c'est-à-dire entrer dans une relation directe, immédiate à Dieu. D'où la notion de conversion. On se tourne directement vers Dieu, c'est la conversion. Avec l'exception du fixeur qui fait la conversion et à qui on ne peut pas accorder cette subjectivité. L'intermédiaire n'est pas un sujet. » Cela résonne avec la conversion monétaire que propose Marco Polo, où tout est échangeable grâce au papier monnaie et où la langue et le fixeur deviennent un échangeur occulté invisible. On demande la fidélité absolue en supprimant la subjectivité par l'obéissance. Or, c'est l'incursion de cette subjectivité, de cette capacité d'agir, de la forme d'existence qui exige de nous une éthique. Peut-on la marchander ? Est-elle convertible ? C'est un endroit conflictuel entre le désir d'éliminer l'intermédiaire, on lui rend la capacité d'agir, et de l'anéantir dans sa subjectivité. C'est le conflit entre la capacité d'agir par sa propre volonté, d'intervenir, et obéir. Là se noue la question éthique. Quelle est la capacité du fixeur d'agir en tant que sujet mu par sa volonté et aussi par son inscription dans le vécu, dans le réseau qui demande une intervention autonome, agir sur le vif d'une situation inédite de vie et de mort, par exemple. Et comment cette capacité d'agir ne cessera pas d'insister sur la question éthique et morale en vue de ces actions et de leurs conséquences ? Les auteurs des traités semblent considérer que si on est son propre fixeur, l'action est imputable à soi-même, la responsabilité de ses actions ne revient qu'à l'agent. Si on suit cette pensée, on comprend que tant qu'il y a intermédiaire, il n'y aura pas de sujet et pas de sujet imputable. Or, c'est négliger le fait, comme dirait Bruno Latour, que nous sommes dans un réseau de circonstances qui, lui, est fait d'un enchaînement d'intermédiaires qui sont tous des acteurs, qui agissent et se font agir. Si Latour ne pose jamais la question éthique du réseau, c'est que l'éthique ne peut se poser qu'en termes de subjectivité, c'est-à-dire d'imputabilité à un sujet de volonté, ce que le concours de circonstances annule comme position d'emprise sur le monde. Si on passe par des intermédiaires, l'éthique ne peut plus être conçue comme une morale, mais uniquement comme une relationnalité entre les acteurs, on peut dire avec Latour une association. Mais j'insiste sur la relationnalité précisément parce que le débat autour de l'intermédiaire revient toujours, néanmoins, en termes éthiques. Suis-je un sujet imputable, il est entendu. si je passe par l'intermédiaire. L'intermédiaire, donc, ne peut pas être un sujet pour que je le sois. Les intermédiaires ne permettent pas une construction d'éthique fixe, et pourtant, il doit y en avoir une. Dans cette multitude de considérations éthiques de réseau que le fixeur pose pour l'humanisme et pour le monde, je me concentrerai de la prochaine séance sur un faisceau d'éléments liés à l'économie de la traduction, à l'économie du marché des fixeurs. Il s'agira de la monétisation des langues que pointait déjà Marco Polo et avec laquelle se profile la problématique du contrat, de la responsabilité, de la valeur, de la dette. Il s'agira d'articuler l'éthique sur l'économie. Alors pour terminer et pour introduire la prochaine leçon, je prendrai deux exemples. Le premier emprunte à l'actualité, le deuxième au Moyen-Âge. Dans un article du 28 mars 2018, publié dans Libération, l'envoyé spécial Luc Mathieu écrit, je cite, « que depuis le retrait des troupes françaises d'Afghanistan, une centaine de traducteurs ont vu leur demande de visa rejetée par l'administration française, malgré plusieurs recours. En attendant d'obtenir gain de cause, ils doivent faire face aux menaces de mort des talibans. » Un interprète qui attend depuis 2012 se confie. « J'étais en première ligne avec les soldats français et on me rejette sans raison. Je n'ai jamais été mise à l'écart, j'étais comme les autres, je faisais partie de l'équipe. » Ce n'est que face à la médiatisation que le gouvernement réagit et valide 100 demandes sur 250 déposées. Les critères, les menaces subies, la qualité des services rendus et la capacité de s'intégrer en France. On trouve la même situation en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où la décision de ne pas relocaliser l'interprète qui a fait 16 ans de service en Afghanistan a provoqué une vague médiatique et la condamnation de la part des militaires les plus haut gradés, et je en cite un exemple. Qu'est-ce que cela dit de notre manque de générosité d'âme et de notre sens du bien et du mal ? J'ai honte de cette décision et de ceux qui l'ont prise. Alors si on permettait aux fixeurs d'être un sujet, non pas un moyen pur, serait-il traité autrement par les États ? En quoi sa présence et son existence remettent-elles en question les États, leur générosité, leur humanisme, leur mission pacificatrice, ce qui entraîne un refus de les relocaliser ? L'État ne considère-t-il avoir une dette envers quelqu'un qui est un moyen, quelqu'un qu'on est venu sauver et épauler en intervenant dans son pays et qui donc devrait, selon la logique propre à l'interventionnisme des États occidentaux, nous être redevable. Cette dette inavouable envers le fixeur, le moyen pur, ne lui accorde pas la place d'intermédiaire qu'il a pu occuper et ne le constitue pas forcément en sujet, mais fait de ce passeur quelqu'un par-dessus qui en passe. Et envers qui on refuse de comptabiliser la dette. Combien de vies sauves, françaises, britanniques, américaines, valent la vie d'un seul fixeur ? Ça, c'est une véritable question économique. Il est intéressant d'ailleurs qu'au fil des articles, on voit alterner deux termes, relocalisation et rapatriement, comme s'ils étaient échangeables. Relocaliser, rapatrier, ce devrait être une conversion. Je cite encore le critère pour les visas français de la capacité de s'intégrer en France. Les fixeurs, leur fidélité, malgré toutes les assurances que les militaires n'ont cesse de donner, sont suspects. On évoque la crainte de l'infiltration, la peur d'importer du terrorisme sur le sol français. Alors qu'en même temps, on n'arrête pas de parler de leur rapatriement. Comment concilier le discours sur la menace terroriste et le rapatriement ? Mais il me semble qu'évoquer la menace terroriste, qui serait une évidence, bien sûr, après le 13 novembre 2015, dissimule une autre raison de nature politique. La crainte de la demande d'asile politique, d'encouragement à l'immigration de tous ceux qui peuvent être vus comme des fixeurs. Les demandeurs d'asile politique ne sont-ils pas précisément ceux qui se font l'intermédiaire des valeurs dites occidentales qu'ils importent dans leur pays d'origine et qui leur valent la persécution ? En effet, l'État français craint de créer une jurisprudence et de l'exporter à d'autres terrains de conflit, expliquait la vice-présidente de l'Association des anciens interprètes afghans de l'armée française. J'ajouterai en passant que ce n'est pas uniquement une question d'avenir, bien sûr, c'est aussi une question du passé, puisque les fixeurs d'aujourd'hui remuent les vieilles blessures des harkis d'Algérie en France, comme les vieilles blessures des Gurkhas de Népal en Grande-Bretagne. Je reviens à Pierre Dubois sur la finalité qu'il espère atteindre en appliquant les préceptes de son traité, et ainsi je rejoins encore une fois le propos de Marco Polo. Je cite Dubois. Il sera difficile d'habiter dans les terres dont la langue littéraire et les dialectes parlés ne sont pas connus des Français, comme il sera difficile de chercher l'amour et l'alliance avec les natifs de ces terres. Comment donc chercher à s'acquérir l'amour des survivants ? Apprendre la langue de l'autre, la langue de ceux qui auraient survécu, survivre nous indique la violence qui a précédé cette noble quête d'amour et d'alliance avec les natifs, les autochtones. Cela paraît être une assez belle cause pour apaiser le pays après la conquête. Mais la violence que les rescapés ont pu subir éclate au grand jour dans la suite de la phrase de Dubois, qui se termine par « Il sera également difficile de les gouverner s'ils ont été soumis et de se mélanger avec eux. » Dans une seule phrase, le désir d'amour et d'alliance avec les autochtones se transforme en désir de gouvernance et de subjugation. La langue de l'autre est donc un moyen de domination spirituelle, mais, on le verra, économique aussi. Dubois fait connaître la fin que justifient ces moyens. Une fois que le monde sera devenu catholique, dit-il, cette colonisation permanente devrait sécuriser l'approvisionnement, je le cite, en quantité adéquate et au prix raisonnable des marchandises précieuses qui abondent dans ces régions, mais qui sont rares et très prisées chez nous. La conquête et la conversion sont tout d'abord une mission commerciale destinée à l'exploitation des terres. Et si les non-catholiques, les Arabes et les chrétiens d'Orient refusaient de se rallier aux catholiques, ils ne connaîtraient pas la prospérité, menace Dubois. L'apprentissage des langues étrangères se révèle ainsi être un monopole, une domination politique et spirituelle à des fins économiques. L'apprentissage des langues et la formation chrétienne de ses propres fixeurs, des purs moyens, sans subjectivité, sans volonté propre, sans agency propre, est la voie vers la domination mondiale. Voilà donc la conversion sans médiation dans toute sa splendeur. La conversion religieuse n'est plus si éloignée de la conversion monétaire économique. Les fixeurs sont des intermédiaires dont le travail, mais aussi la survie même, peuvent être posés en termes d'économie, de marchandises. On a rejoint la pensée de Marco Polo. Dans la suite de cette pensée économique et éthique, je vous invite à revenir la semaine prochaine, où nous nous intéresserons à quelque chose peut-être de plus agréable, le don, la courtoisie, mais aussi au pouvoir qui s'y noue et s'y joue. Et on s'intéressera au Moyen-Âge et au contemporain. Je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine.